Alors, je commence par l'électricité en 2050 dans le cadre de la neutralité carbone. La neutralité carbone, ça veut dire qu'en 2050, on sera censé ne pas émettre dans toute l'économie plus de carbone que la nature ne peut en absorber. Je résume en quelques mots, mais c'est en gros, c'est ça. Sachant qu'à l'heure actuelle, on émet toujours beaucoup de carbone pour toutes nos utilisations énergétiques, et ce carbone, il vient des combustibles fossiles essentiellement. Combustibles fossiles, charbon, fuel, enfin charbon, il n'y en a plus beaucoup en France, mais pétrole et gaz. Alors pourquoi l'électricité va jouer un rôle extrêmement important? Tout simplement parce qu'elle peut être produite justement à partir de plusieurs moyens, sources d'énergie primaire qui sont, je rappelle, sources d'énergie primaire qui sont des sources d'énergie qui existent dans la nature, qui en excluant complètement les énergies fossiles, qui donc émettent du CO2 comme je l'ai dit. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, il y a l'énergie nucléaire, qui est la moins carbonée de toutes avec l'énergie hydraulique. C'est vraiment... Alors, le nucléaire, il a un autre avantage, c'est qu'il permet de fournir de l'énergie en très très grande quantité, ce qui n'est pas le cas des autres. Le deuxième volet, ce sont les énergies renouvelables. Et là-dedans, on peut distinguer les énergies qui sont utilisables à grande échelle. L'énergie hydraulique, c'est la plus répandue dans le monde à l'heure actuelle, mais on utilise l'énergie hydraulique depuis la fin du 19e siècle, et même avant avec les moulins à eau, bien sûr, mais enfin de façon industrielle depuis la fin du 19e siècle. Il y a deux autres énergies qui sont potentiellement très abondantes, mais difficiles à capter, qui sont l'énergie du vent, captée par les éoliennes, et l'énergie solaire, que l'on peut capter de différentes façons, mais la façon la plus courante, c'est sous forme photovoltaïque, et je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et puis, il y a des énergies qui existent à petite échelle, que je cite là, microhydraulique, énergie des mers. Alors, l'énergie des mers, il y a beaucoup d'articles sur la question. Le problème, c'est que le potentiel n'est pas très grand, et c'est extrêmement difficile à capter. Et de toute façon, le potentiel n'est pas énorme. Et il y a aussi la géothermie, haute température, mais c'est intéressant dans les pays volcaniques où il y a beaucoup de géothermie, beaucoup de chaleur souterraine à très haute température. Ce n'est pas vraiment le cas de la France, même s'il y en a un petit peu. Alors, l'électricité, donc, c'est pas une énergie primaire, c'est une énergie fabriquée, dite énergie finale, mais qui est donc directement utilisable par les consommateurs, et dont les émissions de CO2 peuvent être réduites à celles de la construction et l'entretien des machines de production. Mais par contre, sans émissions de CO2, quand on produit. Alors, ça, c'est une propriété évidemment extrêmement intéressante. Et l'électricité peut être, autre propriété très intéressante, peut être retransformée en pratiquement toutes les autres formes d'énergie, faire de l'énergie mécanique, hein, pour mouvoir des véhicules par exemple, hydraulique, thermique, pour chauffer, électromagnétique dans des tas de domaines, pour faire des télécommunications par exemple, et énergie chimique, dont fabrication d'hydrogène par électrolyse. Voilà. Alors, simplement pour être utilisée en masse, l'électricité, elle requiert des réseaux de transport et de distribution d'électricité, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, l'autre énergie qu'on sera censé utiliser en 2050, c'est la biomasse, qui n'est pas autre chose que de l'énergie solaire transformée, et qui sera donc la deuxième source, minoritaire par rapport à l'électricité, et limitée par sa croissance annuelle. Il est évident qu'on ne pourra pas prélever tous les ans plus que la nature fournit de biomasse, sinon ça ne sera pas durable. Et donc là, on trouve le bois énergie, les déchets végétaux, le biogaz, avec des applications qui sont également limitées, production de chaleur, de biocarburant. On peut aussi produire de l'électricité, bien sûr, à partir de la biomasse, hein. Mais ce n'est pas forcément la solution la plus idoine, parce que, par exemple, surtout avec le biogaz, qui est beaucoup plus intéressant pour la mobilité, par exemple, ou pour le chauffage direct. Alors, un mot sur les réseaux et à quoi ils servent. Donc, je l'ai indiqué là-dessus, ils servent à quatre choses: la mise en relation, la solidarité, la mutualisation et l'optimisation. Alors, ces quatre rapports figurent dans le schéma que vous avez là. Si on commence par la gauche, eh bien, c'est évident, relier les producteurs aux consommateurs. Ça coule de source. Si on continue vers la droite, secourir les zones en déficit par les zones en excès, ça c'est déjà beaucoup plus intéressant parce que dans un réseau, les moyens de production ne sont pas partout et il peut y avoir des zones qui manquent d'énergie, donc on transporte celles qui existent. Et alors, ce qui est réellement très intéressant, c'est le troisième point qui est dessous, c'est mutualiser les moyens de production grâce au foisonnement des consommations. Alors, c'est quoi le foisonnement des consommations? C'est un effet statistique par lequel, à tout instant, la totalité des consommateurs n'appelle pas leur puissance maximale. C'est-à-dire, si vous avez, mettons, allez, 6 kW d'installés chez vous dans votre appartement, eh ben, à tout instant, vous n'appelez pas vos 6 kW, évidemment. Et par effet statistique et décalage dans le temps des appels de puissance, il y a ce qu'on appelle l'effet de foisonnement, qui est extrêmement important. À l'échelle d'un pays comme la France, ça permet de diviser par 5 à 6 les capacités totales de production. C'est-à-dire que si chacun produisait sa propre électricité, il faudrait 5 à 6 fois plus de capacité de production d'électricité. Vous voyez, c'est un effet extrêmement puissant. Dernier avantage, c'est de réduire les coûts de production grâce aux effets de taille. Les moyens de production de grande taille ont des coûts de production d'électricité beaucoup, beaucoup plus faibles que les moyens de petite taille. Et donc, ça, c'est également un gros avantage. Alors, rapidement, les réseaux publics, il y en a de plusieurs tailles et de différentes catégories. Il y a les grands réseaux nationaux de transport qui fonctionnent en très haute tension, haute tension. Typiquement 400 000, 225 000 volts, hein, pour fixer les idées. Et ce réseau, ben, le réseau français, il est interconnecté avec les pays voisins, j'y reviens dans un instant, et il alimente à l'aval les réseaux dits de distribution qui distribuent en moyenne tension, basse tension. La basse tension, c'est ce que chacun a dans sa maison ou son appartement. Voilà, il y a des réseaux locaux aussi de territoire et il y a aussi des réseaux dans les îles, bien sûr, mais qui sont des réseaux isolés et qui, eux, fonctionnent directement en moyenne et basse tension. Alors, un petit mot sur l'organisation du système électrique européen. En fait, il est techniquement piloté par. Régulé par l'ENSOE, qui ne fait pas du pilotage immédiat, mais qui donne des règles et qui regroupe en fait des gestionnaires des réseaux de transport d'électricité, dont RTE en France, hein, de 35 pays du continent, pour tout ça pour coordonner et optimiser et sécuriser le fonctionnement de l'ensemble. Puisqu'on ne fonctionne plus tout seul depuis très longtemps, et dans un but commercial de faciliter les échanges via les marchés d'électricité. Alors, j'ai figuré à gauche le schéma enfin, le plan du très sommaire du réseau de transport d'électricité 225 et 400 kV. Là, vous voyez en rouge et en bleu et en vert les deux réseaux. C'est un réseau qui est très fortement maillé. Maillé pourquoi? Parce que si une ligne ne fonctionne plus, il faut pouvoir alimenter les consommateurs par ailleurs, par les autres lignes, et qui est fortement interconnecté au réseau européen, qui figure à droite et qui rassemble donc tous les pays qui sont rassemblés par l'ENSO. Alors là, vous voyez un gros ensemble de pays en bleu sombre. C'est ce qu'on appelle la plaque continentale européenne, dans laquelle il y a la France, et qui représente le poids le plus important, bien sûr, du réseau européen. Alors, je vais passer maintenant à une question technique que je vais peut-être abréger. En tout cas, peut-être pas détaillé trop. Pour tout ça, pour citer l'outil de base qui alimente les réseaux à l'heure actuelle, ce sont les alternateurs triphasés. Et je qualifie ça de géniale invention du champ magnétique tournant en constant par Nikola Tesla. En fait, un réseau triphasé, il génère, c'est un champ magnétique constant ici, grâce à ces trois bobines alimentées par des courants sinusoïdaux triphasés et déphasés, qui permet d'avoir un vecteur magnétique qui tourne, qui est de module constant et qui tourne à la fréquence de 50 Hz. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de fabriquer des machines synchrones, c'est-à-dire des moteurs synchrones ou des alternateurs ou moteurs. Là, je donne le principe de fonctionnement, hein, avec les attractions de pôle, hein. C'est évidemment extrêmement simplifié, mais c'est la machine qui a permis d'avoir les réseaux que l'on a à l'heure actuelle. Ça, c'est très très important. Alors, ce qui est encore plus important, c'est de voir comment ça fonctionne. C'est que le champ tournant du stator et le rotor d'un alternateur tournent exactement à la même vitesse. Ils sont liés par couplage électromagnétique synchrone, via un angle interne ici qui représente la puissance transmise entre les deux. Et maintenant, si on raccorde grand un alternateur à un réseau, eh bien, ils se mettent tous à tourner à la même vitesse, toujours par couplage synchrone, et ils communiquent instantanément via la fréquence commune du réseau, donc qui est l'indicateur global de l'équilibre en production égale consommation, sachant que un réseau électrique, il n'a pas de stockage, donc il faut qu'à tout instant on sache produire exactement ce que l'on consomme. Et si y a un écart trop important, j'y reviendrai tout à l'heure avec quelques chiffres, eh bien le réseau dysfonctionne et il peut même aller jusqu'à s'écrouler. Donc, et vous verrez, il n'y a pas beaucoup de marge. Alors, autre avantage des systèmes triphasés actuels pour la stabilité des réseaux, là on fait un peu de physique, c'est que ces réseaux possèdent une inertie naturelle qui est très importante. Pourquoi? Parce que c'est l'inertie des masses tournantes, des rotors, des machines synchrones, qui se comportent comme des volants d'inertie, en fait, et avec des actions stabilisatrices, deux types d'actions. Une action mécanique qui, en cas de variation de fréquence, ralentit les variations brutales de fréquence, puisque la fréquence est étroitement liée à la vitesse, hein, exactement lié à la vitesse, à la vitesse de rotation des machines. Et une action régulatrice par stockage d'énergie cinétique qui est dite autorégulante. Pourquoi? Parce que quand la fréquence baisse, l'énergie cinétique de l'ensemble des rotors couplés baisse, et comme l'énergie se conserve, eh bien, elle se transforme en énergie électrique et donc ça soutient la puissance du réseau. Alors voilà, j'ai fait figurer ici pour illustrer un peu comment ça se passe, un transitoire de perte de puissance sur un réseau. Vous voyez là en rouge le cas d'une perte de puissance avec un réseau d'inertie importante. Vous voyez que c'est assez doux comme variation, et ça descend pas très bas, et ça descend ici pas très vite. Et quand l'inertie baisse, et bien vous avez une variation qui est beaucoup plus rapide ici et qui descend beaucoup plus bas. Donc ça montre l'importance de ce paramètre. Autre point majeur de l'inertie, eh bien, ça permet de laisser aux régulations de puissance des turbines, parce que les alternateurs ne tournent pas tout seuls, ils sont entraînés par des turbines qui ont des régulations de puissance. Et le fait d'avoir des constantes de temps importantes permet de laisser à ces régulations de puissance le temps d'agir selon une loi ici que j'indique, avec un signe moins ici, parce que quand la fréquence baisse, quand le delta F est négatif, eh bien il faut insuffler un delta B positif aux turbines pour rectifier l'équilibre. Bon, je vais passer sur le reste pour gagner un peu de temps. Pour fixer les idées quand même de façon concrète, quelques indications sur les paramètres critiques à maintenir en permanence dans des droites limites sur les réseaux. Il y a d'abord la fréquence F dont je viens de parler abondamment, qui est donc, comme je l'ai dit, l'image de l'équilibre instantané production-consommation. Et c'est un paramètre global, partout le même sur un réseau synchrone. Ça vous étonnera peut-être, mais la fréquence est exactement la même à Lisbonne et à Varsovie, qui sont pourtant distants de 3000 km en gros, hein, et puis évidemment à Paris, Rome, etc., hein, ou Berlin. Et donc c'est le même signal pour tout le monde. Alors, simplement, il faut bien voir que physiquement, on est dans un phénomène physique d'équilibre permanent. Donc, la fréquence, elle n'est pas fixe à 50 Hz, elle fluctue toujours en permanence à l'échelle de la seconde, de la demi-seconde, autour de sa valeur nominale. Hein, tout ça en fonction des variations de la consommation. Ça, c'était dans l'ancien temps, quand les productions étaient stables. Mais depuis l'injection dans les réseaux d'électricité éolienne et photovoltaïque, qui est à la fois variable et qui peut devenir intermittente, eh bien, les variations de ces productions viennent s'ajouter algébriquement à celles de la consommation. Alors ça a un effet extrêmement important parce que les variations combinées, algébriquement combinées entre les variations de consommation et les variations de production deviennent extrêmement supérieures aux variations de la seule consommation. Malgré cela, la fréquence doit rester dans les mêmes limites strictes qui sont fixées pour garantir la sécurité des réseaux et le bon fonctionnement à la fois des machines de production et des récepteurs des consommateurs. Tout ce que vous recevez chez vous, il y a beaucoup d'appareils qui ne fonctionneraient plus si la fréquence s'écartait trop du 50 Hz. Donc il faut garder une plage extrêmement étroite. La plage normale, c'est 50 plus ou moins 1%, donc 50 plus ou moins 0,5 Hz, vous voyez, avec des alertes qui arrivent très très vite, puisqu'on a déjà une alerte de fréquence basse critique à moins 0,3 Hz, une limite basse de sécurité définie par l'ENSO pour l'ensemble du réseau européen qui est à moins 0,8, et là ça commence, c'est pas beaucoup 0,8 Hz, hein, mais là ça commence à devenir très dangereux, et puis des risques de délestage incontrôlé très élevés si on tombe à 49 ou moins bien sûr. Avec un risque de blackout. Un blackout, c'est un écroulement total du réseau. Alors, ça ne s'est pas produit en France depuis très longtemps. Le dernier, il remonte à 1979. J'avais une trentaine d'années à l'époque et je me rappelle tout à fait de la chose. On a été quand même privés d'électricité pendant une journée complète, hein, à peu près toute la France, hein, dans le Nord. C'est quand même un événement qui, à l'époque, était beaucoup moins grave que maintenant, mais maintenant, un événement de ce type, avec tout ce qui fonctionne à l'électricité, eh bien, ce serait infiniment plus grave parce que très vite, il n'y a plus de télécom, parce que les batteries des stations de télécom, elles ont quelques heures d'autonomie, elles n'ont pas une journée, donc il n'y a plus de téléphone. Il n'y a évidemment plus de radio, sauf quand ça marche batterie, mais pas longtemps. Les hôpitaux n'ont plus d'électricité, donc ils fonctionnent avec leur diesel de secours, à condition que ces diesels démarrent et fonctionnent bien, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, bref, c'est la désorganisation complète d'un pays, bien sûr. Hein. Voilà. Bon. Heureusement, tout est fait pour que ça n'arrive pas. Hein. La probabilité n'est pas très forte, heureusement. Alors, là, il y a un deuxième paramètre qui est important, c'est le respect de la tension, qui est ce deuxième paramètre critique d'un réseau. Alors, ce n'est plus un paramètre global comme la fréquence, mais c'est un paramètre géographique, local ou régional, hein, et qui sert notamment à fixer le sens des courants. Par exemple, quand on veut exporter vers un pays voisin, et là, il faut faire monter la tension à une valeur supérieure à celle du voisin, sinon le courant, eh bien, il passe pas. Donc c'est quand même aussi important. Et la plage admissible de fonctionnement, là, est plus large, de l'ordre de 5%, qui peut aller un peu plus loin pendant quelques minutes. Mais la tension est également perturbée par les productions variables et intermittentes. Alors, les moyens de réglage de ces deux paramètres sont toujours les groupes turbo-alternateurs synchrones qui permettent de régler les deux sans problème. Alors, une image du changement, de donne assez complet qui résulte de l'introduction d'électricité variable et intermittente. Qui rend évidemment l'équilibrage production-consommation beaucoup plus difficile et plus complexe. Là, vous avez à gauche l'image en vert d'une production éolienne. C'est un mois particulier, c'est novembre 2020, mais vous regardez tous les mois, vous n'avez pas le même profil évidemment, mais vous avez un profil aussi chahuté. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a des moments où quand il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'électricité. Et puis là, vous avez des endroits où il y en a très peu. Et puis là, on est tombé quasiment, pratiquement à zéro, là, vous voyez. Donc, c'est pas avec ça qu'on peut seulement alimenter un pays. Là, vous avez un exemple de production éolienne. De production, pardon, photovoltaïque d'une journée. Donc, vous voyez le profil. C'est beaucoup plus régulier. Là, il y a des petites variations, c'est des passages de nuages, a priori. C'est beaucoup plus régulier, mais ça commence le matin quand il y a du soleil, et puis ça s'arrête quand il y a plus de soleil, évidemment. Donc, il n'y a pas d'électricité la nuit. Et tout ça, c'est censé alimenter la courbe de demande d'une journée. J'ai fait figurer ici les consommations journalières selon saison. Vous avez ici en bleu la courbe de demande d'un jour ouvrable en hiver. Vous voyez, ça baisse beaucoup à 4 heures du matin, et puis ça repart quand l'activité de la journée commence, hein, à partir de 7 heures, 8 heures. Vous avez une consommation assez importante en milieu de journée, et puis vous avez la fameuse pointe de 19 h là qui se manifeste. Et là, bon, en vert, vous avez la même chose pour l'été. Il y a quasiment plus de pointe de 19 h. Et en rouge, demi-saison, mais là la demande, vous voyez, est beaucoup plus faible. Elle est quasiment la moitié. Alors, simplement, ce que l'on peut dire, c'est que les productions éoliennes et photovoltaïques sont très peu corrélées avec les besoins. Elles dépendent du vent et du soleil, elles ne dépendent pas de l'envie des consommateurs de consommer. Voilà. Alors, la conséquence, c'est que, c'est ce que j'ai écrit ici, cette électricité variable et intermittente est incapable d'assurer seule l'équilibre et l'alimentation correcte d'un réseau et donc d'un pays. Alors, il va falloir ajouter, c'est ce qu'on commence à faire, ajouter des contributions supplémentaires de façon qui vont être indispensables pour rééquilibrer un peu tout ça, toutes ces variations. Alors, il y a déjà un recours accru aux importations-exportations. Ça, c'est assez facile à comprendre, à condition que les pays puissent avoir des capacités d'exportation quand on en a besoin. Ça, c'est un autre problème. On peut faire participer les éoliennes et le photovoltaïque au réglage de puissance du réseau, mais c'est très limité et c'est peu efficace. Donc, j'insisterai pas là-dessus. Ce qui est plus important comme remède, c'est de faire des stockages d'énergie qui sont plus ou moins importants selon les besoins. Alors, l'électricité ne se stocke pas en tant que telle, et donc, quand on veut stocker, c'est un abus de langage quand on parle de stockage d'électricité. En fait, on stocke une énergie qui a été transformée à partir d'électricité et qu'on déstocke ensuite en la retransformant en électricité. Alors ça, c'est un moyen, sauf que il y a plusieurs possibilités. Il y a les moyens hydrauliques qui existent depuis longtemps, les fameuses STEP. Alors, ce sont des centrales hydrauliques qui fonctionnent avec un bassin haut, un bassin bas. Hein, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On turbine quand on fait couler l'eau du haut vers le bas. Et quand on a trop d'électricité, on remplit à nouveau à partir du bassin bas le haut pour pouvoir utiliser, on constitue un stock en fait, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Il y a les batteries électrochimiques qui prennent de plus en plus de place. Mais qui consomment des matériaux rares, ça c'est votre domaine, et énormément de matériaux rares, ce qui va poser certainement un énorme problème à terme. Et puis il y a les gaz de synthèse, dont l'hydrogène, qu'on peut produire par électrolyse, mais ça consomme beaucoup d'électricité, et on peut brûler l'hydrogène soit dans une paire de combustible, soit dans une turbine à hydrogène, pour refaire de l'électricité. Mais quand on fait ce chemin, électricité, hydrogène, électricité, eh bien, on perd les deux tiers de l'énergie. Donc ça pose un problème. C'est-à-dire que pour récupérer un kilowattheure d'électricité en déstockage, il faut avoir utilisé 3 kilowattheures d'électricité préalablement. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes assez redoutables. Alors, il y a dernière solution, c'est ce qu'on appelle la gestion active de la demande, qui va se développer. Il s'agit soit d'effacement, c'est-à-dire suppression de la consommation, de certaines consommations. C'est possible avec des consommations industrielles, soit des reports, c'est-à-dire qu'on diffère la consommation. Alors ça, c'est quelque chose qui est en plein développement et qui va, à mon avis, se développer assez fortement dans les années et décennies qui viennent. C'est-à-dire qu'on demandera, par exemple, aux citoyens de bien vouloir arrêter certaines consommations non essentielles pour passer certaines pointes. Et ça pourra se faire d'ailleurs de façon automatique, hein, avec des compteurs communicants. Mais c'est une des solutions qui est sérieusement envisagée et que vous connaîtrez probablement de plus en plus, parce que produire beaucoup d'électricité deviendra très difficile. Et ça fait partie des solutions qui sont pas idiotes, mais qui sont malheureusement limitées. Alors tout ça, c'est très bien, c'est très gentil, mais vous voyez, ça va être très complexe, hein, de manager toutes ces activités en même temps, en temps réel, tout ça pour maintenir l'équilibre production-consommation à tout instant. Et donc, il va falloir introduire de l'intelligence artificielle dans les réseaux. C'est ce qu'on appelle les fameux smart grids. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un sujet en plein développement, mais qui est hyper complexe et qui n'est pas encore très développé, à vrai dire, hein. Et puis surtout, c'est pas, et ça c'est pas terrible, ça va induire de nouveaux risques de cybersécurité. Parce que ça va être beaucoup, il y a beaucoup d'électronique là-dedans, et beaucoup d'informatique, et beaucoup de liaisons. Et ben, plus il y a de programmes informatiques de gestion, ben, plus il y a de risques de cybersécurité. Et ça, c'est un problème absolument énorme. Alors, je ne sais pas si vous avez dans votre école des spécialistes de la cybersécurité, mais ce qui est sûr, c'est l'industrie va se les arracher, les entreprises vont se les arracher, parce qu'à l'heure actuelle, on manque totalement et cruellement de spécialistes en cybersécurité, parce que les problèmes sont en train d'exploser, il y a de plus en plus de pirates informatiques, et donc voilà. Alors, tout ça c'est gentil, mais pour l'instant, c'est pas comme ça qu'on commence un petit peu à utiliser, mais on équilibre surtout, parce que tout ça c'est insuffisant. Donc on équilibre surtout l'équilibre du réseau avec des moyens pilotables. Les moyens pilotables, c'est des moyens classiques, hein, dont on module la puissance à volonté. Et donc, tout ça pour ajuster la production, soit en plus, soit en moins. Parce que quand il y a beaucoup d'éoliennes, de photovoltaïques, il y a trop d'électricité sur le réseau, et c'est pas bon non plus. Quand il leur manque, c'est pas bon du tout, mais quand il y en a trop, c'est pas bon non plus. Donc, il faut baisser la production des moyens pilotables. Voilà. Alors, on fait ça avec quoi? On fait ça avec le gaz fossile, beaucoup à l'heure actuelle. Simplement, c'est pas durable parce que le gaz fossile il émet du CO2, donc d'ici 10-15 ans, il faudra s'en séparer. On fait ça avec du nucléaire, qui est capable de le faire. On fait ça avec du biogaz éventuellement. On fait ça beaucoup avec de l'hydraulique. Et puis, on va être amené à faire ça de plus en plus avec du déstockage massif d'énergie, notamment de l'énergie stockée par hydrogène. Voilà. La conclusion quand même qu'on peut tirer de tout ça, elle est quand même redoutable, c'est que sans nucléaire, qui est le seul moyen massif qui permet de faire de la modulation de puissance à très grande échelle, eh bien, il faudra se rabattre sur ces stockages, des stockages d'hydrogène, et qui deviendront indispensables, mais pas seulement indispensables, mais indispensables en très grande masse, c'est-à-dire avec des capacités colossales, et je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Voilà. Alors, un petit mot sur. Je continue donc sur l'introduction d'électricité variable intermittente. Dernière raison pour laquelle ça change la donne, c'est que les modes de couplage au réseau sont très différents, c'est-à-dire que les couplages électromagnétiques des alternateurs sont remplacés par des couplages électroniques, par des onduleurs de puissance commandée. Ce qui est complètement différent. Vous allez voir pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des cours sur ces sujets-là. Alors, les onduleurs, ça fait électronique, ça fait partie de ce qui consomme aussi des matériaux, hein, des matériaux moins qu'une batterie, mais c'est consommateur de matériaux nouveaux, enfin rares. Alors, pour comparer comment ça fonctionne, pour rappel, là, donc, ici je rappelle au point 1 le schéma d'une production d'électricité par machine synchrone. Donc on part d'une énergie de stock hydraulique, fossile, nucléaire, par un stock. Donc, ça permet de faire des moyens pilotables, bien sûr, qui entraînent une turbine ou une autre machine tournante, qui entraîne un alternateur synchrone à 50 Hz, qui débite directement sur le réseau. Alors, ce sont des alternateurs qui ont la capacité, comme j'ai dit tout à l'heure, de former le réseau en fréquence et tension, et qui ensuite apportent leur inertie mécanique et leur énergie cinétique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Si maintenant on regarde ce qui se passe avec une production d'électricité photovoltaïque, ben vous avez comme énergie primaire l'énergie solaire, et si vous utilisez des panneaux photovoltaïques, eh bien, ils produisent naturellement du courant continu. Donc, on ne peut pas injecter du courant continu sur un réseau alternatif, c'était assez évident. Donc, il faut le transformer en courant alternatif via ce qu'on appelle un onduleur, qui est un onduleur suiveur. Pourquoi? Parce que c'est les onduleurs qu'on sait faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire que ces onduleurs ont besoin d'avoir un réseau qui fixe la fréquence et la tension pour fonctionner correctement et fournir leur puissance. Et bien sûr, là-dedans, il n'y a pas d'inertie, ça va de soi, pas d'inertie mécanique. Dernier point, le schéma d'une production d'électricité par éolienne moderne à vitesse variable. Alors pourquoi vitesse variable? Parce que la vitesse variable permet de capter beaucoup mieux la vitesse, l'énergie du vent. Et il vous aura pas échappé que le vent, sa vitesse peut varier dans d'énormes proportions. Et selon la vitesse du vent, la captation de puissance par une éolienne, eh bien, n'est pas la même. Il faut faire varier sa vitesse, il faut faire varier aussi l'incidence des balles. C'est un peu comme une hélice d'avion dont on fait varier l'incidence. Mais bref, pour les éoliennes modernes de grande puissance, on fait des éoliennes à vitesse variable pour donc optimiser la captation de puissance. Alors, vous partez d'énergie du vent, énergie primaire, vous entraînez un rotor d'éoliennes, tout ça, ça va très bien, et qui entraîne lui-même un alternateur, mais qui est à vitesse variable, donc fréquence variable. Donc on ne peut pas non plus injecter une fréquence variable sur un réseau à fréquence fixe, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redresse ce courant alternatif à fréquence variable, dans un redresseur de courant, et derrière, on l'ondule exactement comme pour le cas ici des panneaux photovoltaïques, hein, avec le même type d'onduleur. On l'ondule pour pouvoir avoir une fréquence, un courant alternatif à 50 Hz. Alors, un dernier mot, un rotor d'éolienne, ça a une inertie mécanique extrêmement importante, sauf que dans un schéma comme ça, on ne la récupère pas directement. Et d'ailleurs, on ne récupère pas l'inertie mécanique en tant que telle. Par contre, on peut récupérer par des procédés de contrôle-commande un peu sophistiqués son énergie cinétique pour la réinjecter dans le réseau. Donc voilà. Alors, je vais peut-être, parce que je crois qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps, je ne sais plus à quelle heure on a commencé là, je vais peut-être passer sur un certain nombre de choses assez vite. Je termine quand même sur ce paragraphe. Pourquoi l'introduction d'électricité variable et intermittente change la donne? Eh bien, c'est que les performances des onduleurs de puissance sont très inférieures à celles des alternateurs. Et donc, ça a des conséquences négatives multiples que je ne vais peut-être pas vous décrire ici pour gagner un peu de temps. Mais si vous êtes intéressé, vous regarderez les visuels. Mais sachez que ces conséquences sont quand même assez redoutables et ça modifie totalement le fonctionnement des réseaux qu'on connaît depuis 130 ans. Alors, juste un mot sur les limites, rapidement. À l'heure actuelle, c'est le tableau du haut. Les limites, il faut les évaluer soit en valeur moyenne annuelle, c'est-à-dire combien d'énergie annuelle est-on capable d'injecter via des onduleurs, c'est-à-dire à partir d'éoliens photovoltaïques, et comment ça se passe en valeur instantanée. Alors voilà où on en est à l'heure actuelle, à 40% en moyenne annuelle et à et à des valeurs très variables qui peuvent aller à 75% selon l'inertie des réseaux. Mais là, on est encore dans un schéma classique, c'est-à-dire dans un réseau qui est encore formé par des alternateurs, qui restent majoritaires. Donc, on n'a pas encore changé de technologie de fonctionnement du réseau. Simplement, on rajoute des onduleurs, et puis on fait des alternateurs, et les autres moyens que j'ai indiqués tout à l'heure se chargent finalement d'équilibrer la chose. Les ambitions pour le futur, c'est plus du tout ça. C'est de passer à 50-55%, puis vers... alors ça, c'est vers 2030, et puis 90-95% vers 2050, et jusqu'à près de 100%, donc, avec uniquement... presque uniquement de l'éolien, du photovoltaïque et un peu d'hydraulique. Et là, là, on changera totalement de principe de fonctionnement du réseau, puisque si on a trop peu de turbo-alternateurs résiduels pour former le réseau, ben, ils seront plus capables de le faire, parce qu'il n'y aura plus qu'un peu d'hydraulique, de biogaz ou d'hydrogène. Et les réseaux seront majoritairement formés par un nouveau type d'onduleurs, que je n'ai pas eu le temps de détailler, mais qui eux seront en principe capables de former les réseaux, mais toujours avec un complément, donc des onduleurs suiveurs actuels. Mais ça, ce sera une révolution qui est absolument très loin d'être acquise. Alors pourquoi? Et ça c'est assez fondamental parce que ça explique la suite. C'est qu'il existe des incertitudes majeures qui concernent justement le fonctionnement de ces onduleurs formant le réseau. Pour l'instant, ils fonctionnent au stade des laboratoires ou des micro-réseaux expérimentaux. Donc ça veut dire qu'on n'est pas encore dans les réseaux réels, en clair. Et puis surtout, il y a un gros point d'interrogation sur leur capacité à fonctionner un grand nombre en parallèle, de façon stable et sûre. Ce que font naturellement les alternateurs. On se pose pas la question, les alternateurs, on les branche ensemble, une fois qu'ils sont synchronisés, ils fonctionnent ensemble et c'est parfaitement stable. Là, on ne sait pas. Personne n'a encore fait la démonstration et il y a de gros doutes sur cette capacité. Ensuite, il y a une deuxième difficulté potentielle. Je reviens à la cyberprotection. Pourquoi? Parce que ces onduleurs formant le réseau, ils imiteront les équations des alternateurs de façon informatisée, c'est-à-dire qu'on les dotera de programmes informatiques hyper complexes pour qu'ils aient le même comportement extérieur que des alternateurs. Et il faudra les commander à distance par un grand nombre de liaisons informatisées de contrôle-commande. Alors tout ça va accroître les points d'entrée de cyberattaques et donc ça va constituer une nouvelle vulnérabilité de couplage électromagnétique par rapport au couplage électromagnétique à haute énergie des alternateurs. Donc c'est une question qui est absolument pas résolue pour l'instant. Bon, et puis il y a la diminution massive de l'indispensable inertie des réseaux, qui est un autre problème qu'on sait résoudre, mais qui sera très difficile à résoudre. Alors, je vais passer peut-être sur tout ça parce que c'est long et compliqué. Je vais plutôt, pour laisser la place aux questions, vous parler des perspectives 2050. Selon les connaissances actuelles, avec donc les incertitudes que je viens de citer. Alors, ce que je viens de dire, ça peut se résumer parce que ce que j'ai écrit là-haut, imaginer faire fonctionner des réseaux formés par des onduleurs est un pari extrêmement risqué. Pour les raisons que je vous ai indiquées, parce qu'on n'a aucune preuve pour l'instant. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, mais c'est ce qu'a écrit noir sur blanc les RTE, donc gestionnaires de réseaux français, et l'AIE, Agence internationale de l'énergie, dans un rapport commun publié en janvier 2021, vous voyez ça, ça a 2 ans, c'est récent. Et je vais vous lire ce qu'ils écrivent parce que c'est quand même très très important. Quatre ensembles de conditions techniques strictes, tous ces mots pèsent, hein, devront être remplis pour permettre, avec une sécurité d'approvisionnement assurée, et ça, la sécurité d'approvisionnement, c'est évidemment un point fondamental pour un réseau d'électricité, pour permettre donc l'intégration d'une proportion très élevée d'énergie renouvelable variable dans un système électrique de grande échelle comme celui de la France. Et plus loin, ils ajoutent, c'est ce que je viens de vous dire d'ailleurs, il n'existe actuellement aucune démonstration de la faisabilité d'une intégration très poussée de l'énergie variable comme l'éolien et le photovoltaïque sur un grand système électrique. Donc, vous voyez, la réalité du moment, c'est que on sait intégrer des éoliennes et des panneaux photovoltaïques jusqu'à un certain point, jusqu'à un taux de 40% en moyenne annuelle, mais sans changer de principe de fonctionnement du réseau. Aller au-delà, c'est changer de principe de fonctionnement du réseau, et là, personne ne peut affirmer au jour d'aujourd'hui qu'on sera à que c'est possible. Alors, je vais terminer en illustrant ça avec deux stratégies pour 2050, deux choix stratégiques complètement différents entre l'Allemagne et la France, et vous allez voir qu'il y a des conséquences énormes. Alors, j'ai fait figurer ici, ça figure dans ces trois tableaux, dans ces trois colonnes, pardon, à la colonne de gauche, les technologies bas carbone utilisables, avec les contributions en pourcent et valeurs moyennes annuelles qui sont indiquées ici. Et la colonne du milieu, c'est l'Allemagne, et la colonne de droite, c'est la France. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme moyen pour produire l'électricité en 2050 si on veut l'électricité décarbonée? Eh bien, on aura le nucléaire, on aura l'hydraulique et la biomasse, et on aura l'éolien et le photovoltaïque. Il y en aura quelques autres, mais le gros de la production, on sait déjà qu'il ne pourra venir que de là. Alors, ça, c'est les énergies de base. Alors, si on regarde maintenant la stratégie allemande, les Allemands, alors pourquoi ils ont cette stratégie? Tout simplement parce que ils ont décidé de refuser le nucléaire. Dans quelques jours, ils arrêteront leur dernière centrale nucléaire, donc ils auront zéro nucléaire, et ils n'en veulent pas. Alors, la conséquence, c'est que forcément, ils vont devoir accepter une rupture technique importante qui est finalement de fonctionner avec un maximum d'éoliennes photovoltaïques et donc fonctionner avec un réseau formé par des onduleurs. Tout ça avec l'ambition de multiplier par deux leur niveau de production d'électricité en 2050. Même en fait par plus de deux. Alors, si vous regardez un peu ce qui va se passer, le nucléaire c'est zéro, hydraulique et biomasse, ils ont très peu de capacité hydraulique et la biomasse est vite limitée. Donc en fait, en 2050, ça devrait représenter au mieux 10%. 10% en moyenne annuelle, c'est très très peu. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir faire 90% de leur électricité avec de l'éolien et du photovoltaïque. Alors ça, c'est bien joli en moyenne annuelle, sauf que au jour le jour, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous par une nuit avec un vent très faible, là, la nuit, ben, il n'y a pas de soleil, évidemment, tout le monde le sait, et si le vent très faible, ben, il n'y a pas d'éolien. Il y a une production éolienne qui est ridicule. Donc, ces 90%, dans ces circonstances, ils fourniront une puissance instantanée extrêmement faible. Et donc, il restera les 10% du reste. Donc, on ne peut pas faire fonctionner un réseau comme ça, c'est évident. Donc, ce qu'ils prévoient de faire, Ben, c'est d'avoir un très grand nombre d'alternateurs qui fonctionneront à l'hydrogène, qui prendront le relais, qui se substitueront donc aux 90% d'éolien photovoltaïque. Donc il faudra une puissance absolument colossale en turbo-alternateur à hydrogène. Et qui dit puissance colossale, ben, dit évidemment des stockages d'hydrogène associés avec des capacités très importantes parce que, en fait, le vent peut rester faible pendant plusieurs jours de suite. En fait, pratiquement jusqu'à 10-15 jours. Donc, les Allemands se tournent vers le second hydrogène, en fait. Mais comme ils ne sauront pas faire suffisamment d'hydrogène décarboné par électrolyse qui consomme beaucoup d'électricité sur leur territoire, ils ont prévu d'importer 70 à 75% de leurs besoins. Alors importer d'où? Des pays ensoleillés. Et cet hydrogène étant supposé être fabriqué par du photovoltaïque dans des pays, des zones extrêmement ensoleillées, notamment l'Afrique du Nord, le Sahara, etc., où il y a évidemment un fort ensoleillement. C'est très favorable pour effectivement le photovoltaïque, mais derrière il faut transformer ça en hydrogène, et puis surtout il faut transporter l'hydrogène. Et transporter l'hydrogène, c'est extrêmement compliqué parce que c'est un gaz. Un gaz qui présente un certain nombre de dangers et qui est difficile à transporter parce qu'il est très volumineux. Donc voilà la stratégie allemande, voilà sur quoi elle se base à l'heure actuelle. Alors, on peut se poser de sérieuses questions quand même sur la pertinence d'une telle stratégie parce que c'est totalement risqué. Personne ne sait si ça pourra fonctionner avec des onduleurs majoritaires, et personne ne sait si ces importations d'hydrogène pourront se faire réellement. Alors la solution, la stratégie française, elle est beaucoup plus raisonnable et c'est très rassurant. Et c'est la continuité technique, c'est-à-dire que le réseau restera formé par des alternateurs. C'est quelque chose d'éprouvé, qui fonctionne depuis 130 ans, je répète, à peu près, hein, depuis l'invention de Tesla, et surtout qui a fait de grands progrès et dont on connaît la sécurité d'approvisionnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, évidemment, d'éolien et de photovoltaïque, bien entendu, mais ça veut dire que le réseau restera formé par des alternateurs majoritaires. Tout ça pour une production qui devrait être multipliée par facteur 8 à 2 en 2050. Ça, c'est en cours de discussion, mais ce n'est pas très grave. En fait, ce n'est pas le sujet, quoi. Ça peut être 2, c'est pas on saura faire. Alors, comment on fera? Eh bien, tout simplement en conservant un socle majoritaire de nucléaire qui fera au moins 50%, qui devra faire au moins 50%, et pourquoi pas 70% comme on a depuis pratiquement 40 ans. Hein, on l'a peut-être oublié, mais alors c'était pas vrai l'année dernière pour des différentes raisons, mais pendant 40 ans, on a fonctionné avec un taux de production nucléaire de l'ordre de 70, même 75%. Donc il n'y a pas vraiment de limite ici, sauf la limite, la capacité industrielle à construire. On aura toujours, à peu près comme les Allemands, de 10% d'hydraulique et de biomasse. Bon, on a beaucoup plus d'hydraulique qu'eux, mais étant donné qu'on va multiplier par deux la production, la proportion d'hydraulique va baisser. La biomasse, on ne compte pas trop dessus, parce que il y a d'autres usages plus pertinents. Donc tout ça nous reconduirait à avoir un taux de pénétration de l'éolien et photovoltaïque qui se situerait, disons, entre moins de 20 et moins de 40% selon finalement le taux de nucléaire qu'on réussira à faire. Donc à partir de là, eh bien, on aura peut-être besoin de quelques turbo-alternateurs à hydrogène pour passer des pointes, mais avec des faibles capacités associées, parce que ça consommera peu d'hydrogène, et on ne prévoit absolument pas d'importer d'hydrogène. L'hydrogène, si on en a besoin, on le fabriquera en France, et notamment, bah, soit avec des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques quand il y en a quand ils produisent beaucoup, soit avec le nucléaire, parce que l'électricité nucléaire, c'est tout à fait excellent pour faire de l'électrolyse. C'est d'autant plus excellent que ça fonctionne en continu. Voilà. Je termine sur ce visuel pour résumer et conclure en disant que refuser le nucléaire, qui, je rappelle, est la seule source d'énergie connue à ce jour, qui soit à la fois décarbonée, très fortement décarbonée, pilotable et disponible à très grande échelle, ça c'est très important, on peut faire des puissances énormes avec le nucléaire parce que c'est une énergie très concentrée. Tout ça, alors, s'en priver, le refuser, ça a des conséquences absolument majeures, comme on l'a vu dans le cas de l'Allemagne. Bon, d'abord, comme je l'ai dit, c'est un vrai saut dans l'inconnu, à la fois sur le fonctionnement et la sécurité d'alimentation du réseau, parce que si on ne sait pas l'alimenter de façon sûre, eh bien, ça aura des conséquences énormes, parce que je rappelle qu'un réseau, c'est une infrastructure qui est classée d'importance vitale dans tous les pays, hein, parce que, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, un réseau qui s'écroule, c'est une catastrophe nationale, hein, avec très probablement, j'ai parlé du blackout tout à l'heure, avec très probablement des morts à la clé, parce que les expériences de blackout qu'on a vues aux États-Unis, au Brésil, en Inde, etc., ça s'est toujours accompagné de morts, hein. Il faut quand même le savoir. Sans parler de la perte économique qui est, on perd un blackout d'une journée, on perd quasiment 10 milliards d'euros de PIB, hein. C'est à la louche, entre 10 et 15 milliards. Bon, donc tout ça pour dire que avoir un système qui soit sûr, c'est absolument indispensable. Et ce sera d'autant plus indispensable qu'en 2050, l'électricité sera la principale source d'énergie disponible. Et devra être double, enfin avec une production doublée d'ici là. Sachant que on aura un peu de biomasse, mais la biomasse restera marginale, forcément, parce que on ne pourra pas la pousser plus loin, on ne peut pas aller plus au-delà de la nature. Alors, la deuxième conséquence, au-delà du risque énorme qui est pris ici, la deuxième conséquence, c'est que quand on refuse le nucléaire, il faut avoir d'énormes capacités installées. Évidemment, en éolien à terre, éolien en mer et photovoltaïque, bien entendu. Je reviens à l'exemple de l'Allemagne. C'est le pays qui a le parc installé le plus important d'Europe à l'heure actuelle et qui a produit en 2022 à peu près 35% en valeur annuelle de son électricité. Avec ça, on ne change pas encore de système, hein, on est en dessous des 40%. Mais en 2050, ce trou devra monter à 90% pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, hein, puisque il n'y aura pas grand-chose d'autre. Et tout ça pour une production doublée. Alors, si on fait un petit calcul que j'indique ici, hein, mais très facile à faire, hein, c'est un petit calcul de coin de table, eh bien, pour arriver à ce résultat, 90% d'éoliennes photovoltaïques en 2050 pour une production doublée, ben l'Allemagne devra multiplier par plus de 5 son parc actuel, pardon, d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, sachant qu'il est déjà très grand. Donc on peut se demander où elle les mettra. Bon, c'est son problème, mais c'est un vrai sujet, parce que ça occupe un espace absolument colossal. Troisième point, il faudra en plus d'énormes capacités, en moyenne, en moyen pilotables, retransformant des énergies stockées, enfin, qui seront basées sur des stocks d'énergie, puisque le reste, il n'y en aura pas, hein, pratiquement pas. L'hydraulique et la biomasse, ce sera trop faible. Donc, il faudra qu'ils constituent, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, des stocks d'hydrogène de très grande capacité et des machines pour reproduire de l'électricité à partir de ces stocks. Tout ça pour pallier les manques d'électricité qui sont soit massifs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure lors des nuits sans vent, soit durables, parce que statistiquement, on s'est aperçu qu'au niveau de l'Europe, on peut avoir des manques de vent, pas totaux, mais enfin des vents extrêmement faibles pendant des durées qui peuvent atteindre une quinzaine de jours. Donc, voilà. Et dernier point, et bien tout ça, ça coûtera extrêmement cher. Alors pourquoi ? Ben parce que avoir ces énormes capacités d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques, plus ces énormes capacités de stockage d'hydrogène et de retransformation de cet hydrogène à l'électricité, ça coûtera extrêmement cher. Et je cite ici un chiffre, RTE a fait une étude Futur énergétique 2050, c'est une étude très approfondie, c'est pour fixer les idées, ça doit faire 300 ou 400 pages, hein, c'est assez complexe à lire, qui date d'octobre 2021, et donc dans lequel on trouve, entre autres choses, le prix de l'électricité produite à partir d'hydrogène électrolytique, déstocké. Et alors, ce prix, il est fixé, ils l'ont évalué en 2050 à entre 240 et 350 euros par mégawattheure. C'est un prix très élevé, qu'on connaît malheureusement maintenant avec la crise du marché actuel, mais qui est pas un prix durable et qui est pas, voilà, c'est un prix énorme. Et tout ça, c'est à comparer, à 70 à 80 euros par mégawatt-heure maximum que nous donnera le nouveau nucléaire, à savoir les EPR2 optimisés qu'on prévoit de construire en France. Sachant que le nucléaire actuel, c'est quasiment la moitié. Hein, il produit de l'électricité à 40 euros. Donc vous voyez, il y a un énorme gap entre ces prix. Voilà. Alors, pour conclure, eh bien, on peut se demander si le choix allemand, on se le demande pas d'ailleurs, hein, ça interroge, et plus largement européen. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui veulent suivre l'exemple allemand, qui est du 100%, c'est le choix du 100% renouvelable, hein, c'est-à-dire on supprime le nucléaire et il n'y a plus que du renouvelable. Apparaît comme un véritable saut dans l'inconnu, qui est extrêmement risqué, et tout cela, je le rappelle, pour un système d'importance vitale. Alors, il y a une exception en Europe, qui est la Norvège, qui est un pays de 4,5 millions d'habitants, donc peu peuplé, avec peu de besoins, bien sûr, même si le Norvégien moyen consomme beaucoup d'électricité. Mais ça ne se compare pas avec les 65 millions français ou 80 millions allemands, bien sûr, et qui est doté par la nature de ressources hydrauliques absolument colossales, et donc qui arrive à produire quasiment la totalité, 96% de son électricité, eh bien à partir d'hydraulique. Donc, il lui suffit de rajouter quelques éoliennes et quelques panneaux photovoltaïques, encore que, vu sa position sur le globe très au nord, le panneau photovoltaïque, c'est peut-être pas la bonne solution, pour avoir 100% sans difficulté. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre.
D'énergie renouvelable, mais on en a encore pour combien de temps de nucléaire ?
Pour combien de temps ?
Ouais.
Vous demandez mon avis.
Ouais.
eh bien,
des milliers d'années.
Je pense qu'on l'utilisera encore très très longtemps, parce que les énergies renouvelables sont en train de s'apercevoir que c'est une illusion. Alors, une illusion pourquoi ? Pour la raison que j'indique là, mais il y a une autre illusion, et qui touche ce que vous étudiez, c'est la consommation de matériaux. Faire dans un alternateur d'éoliennes, il y a énormément de matériaux rares, comme ça fait partie des terres rares, hein, du néodyme par exemple, et puis du dysprosium aussi. Et c'est énorme. Et donc, on va buter sur les capacités, sur les. Même en supposant qu'on résolve tous les autres problèmes, on va buter sur les quantités de matériaux disponibles. Alors, et il y a des matériaux parfaitement courants aussi, qui vont aussi être critiques. C'est tout simplement le cuivre. L'aluminium un peu moins, il est plus abondant. Mais le cuivre, parce que un alternateur d'éoliennes consomme au mégawattheure produit à peu près 10 fois plus de cuivre qu'un grand alternateur, pour différentes raisons complexes à expliquer, mais c'est ça la réalité. Donc, en fait, la transition énergétique, elle va consister à changer de la dépendance aux mines fossiles, aux sources fossiles. On va se mettre sous la dépendance des mines de métaux rares. Métaux rares ou pas rares, le cuivre, c'est pas un métal a priori rare, mais qui va être critique. Qui va être critique parce que il n'est pas en quantité infinie. Alors, c'est un métal qu'on peut évidemment recycler, et ça, on le fait déjà. Et le recyclage va être extrêmement important dans tous ces matériaux, parce que sinon, on n'en aura pas assez. Et le monde entier se met à faire des éoliennes, à faire des voitures électriques. C'est très très bien, sauf que, on va buter sur ce problème. Oui.
Pour la solitaire, l'approvisionnement en uranium ne peut pas poser de problème.
Alors, l'approvisionnement en uranium, il va pas nous poser de problème avant un siècle et demi. Et il y a une autre solution, c'est que quand il nous posera des problèmes, eh bien on sait faire des réacteurs qui utilisent mieux la ressource en uranium, parce que pour l'instant on utilise la partie uranium 235, c'est 0,7%, avec les recyclages que l'on fait, on arrive à utiliser un peu plus de 1%, mais avec des réacteurs sur un générateur, on pense pouvoir utiliser infiniment plus que le 1%, une ressource beaucoup plus importante, donc qui ferait sauter ce verrou de l'INU. Mais pour l'instant, on ne les utilise pas. On a su en faire en France, on les a arrêtés, pour des raisons essentiellement politiques. Pour l'instant, on ne les réutilise pas, parce que pour l'instant, ils sont plus chers que les réacteurs à eau légère qu'on utilise, qui utilisent de l'uranium 235, et comme il n'y a pas le prix de l'uranium 235 intervient très peu, il intervient de l'ordre de 5% dans le coût du kilowattheure. Donc même si le prix de la ressource double, ben ça sera pas 5% de plus sur le kilowattheure. Donc c'est pas encore un problème prégnant, parce que le problème de la production d'électricité, l'électricité c'est un bien de première nécessité. Donc un bien de première nécessité, sa première qualité, c'est d'être disponible, sûr et bon marché. Et là, on voit avec la crise du marché de l'électricité que transitoirement, ce n'est pas le cas, parce qu'on indexe le prix du marché de l'électricité sur le prix du gaz, ce qui est une aberration. On espère changer ça, que la commission vient de faire une proposition pour changer ça. C'est un sujet extrêmement complexe. Qui concerne plus le fonctionnement des marchés que la technique, mais voilà. Mais donc, je, J'ai peut-être un point de vue personnel, mais si vous voulez mon point de vue personnel, le nucléaire, on en a pour très très longtemps, et je ne vois pas comment l'humanité pourra s'en passer. C'est pour ça que je le dis, mais c'est, voilà, c'est une opinion, mais elle est quand même basée sur un certain nombre de faits et de réalités scientifiques et techniques. Donc, pour moi, c'est fou de vouloir se priver de nucléaire quand on a les moyens, comme les Allemands, de le maîtriser. Les Allemands, ils avaient les scientifiques et les techniciens capables de maîtriser le nucléaire de façon sûre. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'accident nucléaire en Allemagne, comme il n'y en a pas eu en France, et comme il n'y en a pas eu en Europe, d'ailleurs. Voilà, parce que on sait le maîtriser de façon sérieuse. C'est difficile, hein, mais on sait faire, voilà. Et donc, s'en priver volontairement, je pense que c'est une folie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est une folie, et je ne sais pas comment les Allemands vont s'en sortir.
Si, voilà. Du gaz et du charbon.
Il y a des projets pour la valorisation des déchets nucléaires, parce que si on continue à
le faire, il va y avoir... Ah ben, les déchets nucléaires... À l'heure actuelle, on les sépare. C'est-à-dire les combustibles usés, on les traite pour séparer la partie déchets et la partie valorisable qui est d'une part du plutonium, qui lui est recyclé pour faire de l'énergie, puisque c'est un matériau fissile, et d'autre part de l'uranium résiduel. Qui contient à peu près, paradoxalement, il contient plus d'uranium-235 encore que l'uranium naturel. Il contient pratiquement près de 1%. Et ça, on peut le réutiliser. C'est moins facile à réutiliser parce qu'il y a d'autres isotopes un peu moins qui sont un peu gênants là-dedans. Mais on sait parfaitement le faire. On ne le fait pas. Beaucoup, on le fait un tout petit peu pour l'instant, pour montrer qu'on sait le faire. Économiquement, c'est pas une nécessité, mais ça fait partie des ressources qu'on peut utiliser. Si on supprimait les importations d'uranium, parce que maintenant tout l'uranium naturel est importé, mais on peut tenir de l'ordre de 4-5 ans en utilisant notre stock d'uranium. Qui a déjà utilisé une première fois. Ça, on sait le faire. Techniquement, c'est... Voilà. Mais tant que l'uranium naturel est très bon marché, c'est pas... Il y a un problème économique, hein, là, qui est évident, hein, qui est fort. Hein. Oui ?
Extraire l'uranium, ça a un fort effet sur le climat ou pas ?
Pardon, je...
Extraire l'uranium de la terre, du coup,
est-ce que quand on extrait d'une mine, comme de toute mine, que ce soit de l'uranium, que ce soit du cuivre, que ce soit du lithium, on remue de la terre, ça n'a pas vraiment d'effet sur le climat, ça a plutôt un effet environnemental. Une mine de cuivre, c'est polluant, une mine d'uranium, c'est polluant, une mine de lithium, c'est polluant. Par exemple, le lithium, ça consomme énormément d'eau. Il y a un pays d'Afrique du Sud... d'Amérique du Sud,
dont Chili, non, c'est le Chili, Chili, je pense.
Oui, qui a énormément de mines d'uranium, sauf que c'est sur les hauts plateaux ou là-haut où il n'y a pas d'eau. Et ça commence à poser d'énormes problèmes parce que les mines de lithium utilisent beaucoup d'eau et qui va manquer aux populations locales. Donc, il n'y a rien de simple, hein, y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas de solution complètement propre. Dès que vous avez des mines, vous avez des impacts environnementaux, pas tellement CO2, donc pas tellement climat en tant que tel, mais des impacts environnementaux, notamment sur l'eau, qui sont très importants. Et l'eau, c'est un des problèmes énormes de l'humanité. C'est aussi important que l'énergie, en fait, d'une certaine manière. Oui.
Moi, j'avais une question parce que vous avez dit que la Norvège produisait à peu près 90-95% de son énergie grâce à l'hydraulique.
Oui.
Vous avez 4 millions d'habitants.
Oui.
Est-ce qu'en France, ça serait possible de produire pour environ 4 millions d'habitants à partir d'une source d'énergie, de la source d'énergie hydraulique, ce serait jouable ou pas?
Je n'ai pas regardé le problème sous cet angle, mais je pense que la réponse est oui. Si on était, s'il y avait 4 millions de Français, je pense que la France a une grande chance, elle a le premier parc hydraulique de l'UE. Et on en a pratiquement autant que la Norvège. Donc, oui, la réponse est oui.
Mais c'est déjà le cas, puisque l'hydraulique, c'est 10%. Aujourd'hui,
oui.
On est 65
oui, oui.
millions, donc oui, déjà, l'hydraulique alimente 5 ou 6 millions de Français
oui.
aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
C'est tout.
Mais d'ailleurs, juste après la guerre, alors la consommation d'électricité était bien plus faible, mais l'essentiel de la production, juste dans les années qui ont suivi l'après-guerre, c'était l'hydraulique qui fournissait. Il n'y avait pratiquement que l'hydraulique. Ensuite, le charbon, quand l'hydraulique a été saturé en installation, parce qu'on ne peut pas en mettre partout, eh bien, on a utilisé le charbon, puis le pétrole, puis etc., puis le nucléaire. Mais effectivement, oui, la France a beaucoup d'hydraulique, c'est un atout. Mais ça ne suffit pas parce qu'on est trop nombreux, je suis désolé. Oui.
L'association nous parlait tout à l'heure cette cohérence sur l'uranium qui est utilisé.
Pardon, le...
L'association du projet solaire qui permet d'utiliser plus d'uranium différent.
L'uranium 238, en fait. L'uranium naturel, vous avez du 235, 0,7% en gros. Tout le reste, c'est du 238 qui est pas fissile, mais fertile. C'est-à-dire que quand on le bombarde avec les neutrons, on peut le rendre fertile. Bon, en fait, on fait de plutonium, en fait, hein, qui lui est difficile.
Et du coup, cette solution, elle est beaucoup plus chère ou ça reste...
Alors, elle est un peu plus chère. Pour l'instant, un des gros problèmes, c'est qu'on est dans un contexte où le prix de l'électricité est devenu très très important. Donc, en gros... Les chiffres n'ont pas été trop établis. On a étudié, le CEA a étudié, un nouveau réacteur qui permettrait donc d'utiliser ce système-là, qui s'appelle Astrid, un prototype de 600 MW, et bon, qui malheureusement a été arrêté pour l'instant, enfin, disons différé. Et les premières informations qu'on avait est qu'il coûtait à peu près deux fois plus cher que les réacteurs à eau pressurisée. Donc, bon, ça c'est des ordres de grandeur, c'est pas officiel, mais à partir de là, aucun opérateur électricien ne peut choisir ça pour l'instant. Donc il faut attendre de meilleures conditions économiques, qui arriveront sans doute dans le futur, mais pour l'instant c'était pas rentable, donc et puis les électriciens sont pas forcément très riches. Comment ? Les Russes continuent.
Et puis on peut signaler énormément de projets de plus petite taille, ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires en français, et un certain nombre utilisent cette technologie-là, mais c'est des plus petites tailles.
Alors. Ça, par contre, ça peut avoir de l'avenir, effectivement, parce que les plus petites tailles, ça peut faire du kilowattheure plus cher, mais en même temps, c'est plus simple à construire et c'est plus simple à financer. Donc, c'est peut-être une des solutions intéressantes, mais voilà. Mais ça fait partie de l'avenir, ça fait partie des choses intéressantes qui vont se passer dans les années et décennies qui viennent. Oui.
Pendant longtemps, la filière nucléaire nous vantait l'intérêt du nucléaire comme étant une énergie nationale.
Oui.
Comme quoi on maîtrisait tout. Et puis on découvre avec la guerre en Ukraine qu'on envoie les Russes sans qu'on arrive à comprendre en quoi. Ben justement, il y a les sanctions qui concernent la Russie ne concernent pas le nucléaire. On voit encore des bateaux accostés. On apprend les Russes dans la filière nucléaire à quel niveau. J'ai pas réussi à comprendre.
Non, c'est non. Totalement négligeable, d'ailleurs.
Non, le débat, absolument
pas du tout.
Alors, il n'y a rien de vital dedans. Il y a eu des coopérations, justement, pour réenrichir l'uranium appauvri, dont je parlais tout à l'heure. Celui qui, après une première utilisation, a séparé entre déchets, plutonium et uranium dit appauvri, qui contient encore 0,9 et 1% de nucléaire, d'uranium 237. Alors, le problème, il est simple. Cet uranium, malheureusement, il a des isotopes, je ne sais plus de quel.
236, l'uranium 236.
L'uranium 236, merci, qui ne sont pas fissiles, qui sont fertiles, mais pas fissiles. Donc, qui viennent compliquer les choses. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il y a d'autres isotopes qui viennent augmenter un petit peu la radioactivité, pas dans des proportions colossales. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas intéressant d'utiliser des chaînes d'enrichissement pour cette fonction, parce que si on utilise une chaîne d'enrichissement, on ne pourra plus, pour réenrichir cet uranium qui a un peu pollué, pas extraordinairement, mais un peu, on va polluer la chaîne. Donc, en France, on n'avait pas envie de polluer nos chaînes, donc on ne l'a pas fait. Et il se trouvait que les Russes le faisaient déjà. Et donc, on leur a confié ce genre de travail, il faut savoir que ça a alimenté en France un réacteur. Cruel. Et puis on a arrêté de le faire et on envisage de recommencer à alimenter un réacteur sur 56. Donc c'est un problème qui est parfaitement marginal et si on voulait, si par nécessité il fallait le faire, eh bien on dédierait une chaîne d'enrichissement à cet usage, sachant qu'il faut à l'amont faire un pré-traitement, qu'il faudrait faire une petite usine pour pré-traiter, pour retransformer les stocks d'uranium en question. Il faut les retransformer en hexafluorure, etc. On n'a pas d'usine dédiée à ça, mais s'il fallait, on pourrait le faire.
Orano a déposé le projet, une extension de l'usine Georges Besse, donc dans la vallée du Rhône, pour ça.
D'accord.
Et en 5 ans, à l'échéance de 5 ans, il serait prêt à mettre en œuvre cette usine spéciale dédiée uniquement à cet uranium-là.
Voilà une information supplémentaire. On se prépare.
Voilà. Mais, au cas où.
Il n'y a vraiment rien de vital là-dedans. Et tout ça, c'est économique aussi. Hein. Les Russes faisaient ça de façon économique. Donc, pourquoi aller polluer nos chaînes si les Russes pouvaient nous faire le travail de façon, à la limite, plus économique que nous, hein. C'est tout. Du temps où il y avait des relations avec les Russes, ça avait du sens. Maintenant, évidemment que ça n'a plus de sens, hein. Bien entendu.
Bien. Je crois que vous auriez encore beaucoup de questions. Mais je voudrais rappeler à Georges qui doit rentrer à Versailles ce soir. S'il ne veut pas louper le TGV, je pense qu'il faut qu'il arrête maintenant de répondre à vos questions. Alors, merci. Ce que je peux vous proposer, il y a un certain nombre de revues qui sont à votre disposition. Vous pouvez les prendre. Et puis pour remercier...